Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Point de vue, votre magazine d'information. Boris Chassaigne avec vous pour les 30 prochaines minutes. Au sommaire de cette émission, il a 8 ans, il aimerait vivre dans une librairie. Sébastien Bernabé vient de publier son 3e livre. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet. Les étoiles ont tant à nous dire. Des chercheurs de l'Université St. Mary's d'Halifax en découvrent un paquet aussi vieux que notre univers, le Big Bang au bout de la lentille.
Parmi les galaxies que l'on voyait dans l'image, il y en avait une qu'on a surnommée ensuite le Sparkler, qui est une galaxie qui semblait avoir plein de petites étincelles autour d'elle, plein de petits points lumineux.
De l'infiniment grand à l'infiniment petit, une clinique de Gatineau en Ontario obtient son permis en procréation assistée, un soulagement pour nombre de couples de la région.
J'ai décidé de venir dans une région qui avait un manque énorme en fertilité, qui n'avait aucun service. Donc, c'est plus une décision personnelle de déménager dans la région pour offrir des soins qui n'existaient pas dans la région. On a de l'espoir que ça va être fait en début 2023.
Et ceci alors que le Canada serait en train de sous-estimer le nombre de décès liés aux grossesses et aux accouchements.
Je te dirais, environ 25 % du temps, il y a une situation d'urgence à gérer. L'autre jour, on a eu une femme à bas risque qui est entrée en travail, son premier bébé. Et puis, quand j'ai arrivé chez elle, j'ai découvert que le bébé est en siège.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Alors, on se dirige tout de suite vers les territoires du Nord-Ouest où Sébastien Bernabé, qui n'a que 8 ans, vient de publier le 22 octobre son 3e livre intitulé « J'aimerais vivre dans une librairie ». Le lancement de son livre, écrit en français et en anglais, s'est fait à la bibliothèque municipale de Yellowknife. Il sortira sous la maison d'édition Présence francophone. Le jeune écrivain est passionné de lecture depuis qu'il n'a que 3 ans. Il a lui-même participé au travail d'illustration de son bouquin avec des dessins faits main. Son livre s'inspire d'un réel désir, dit-il, de passer sa vie dans une librairie. Celle qu'il fréquente n'a plus de secret pour lui, dit-il. Il dit avoir lu le tiers des livres qu'elle contient déjà. Notre journaliste Raphaël Hamel est à Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest. Il a eu la chance de rencontrer le jeune auteur, de même que sa mère, Oyuka Bernabé.
Le livre bilingue qui avait été d'abord rédigé en anglais, puis traduit en français, sera officiellement lancé au TNO par la maison d'édition Présence francophone. Le jeune Sébastien a écrit à lui seul le livre au complet et a aussi dessiné toutes ses illustrations à la maison.
I did it at home.
Sa mère, Oyuka Bernabé, raconte qu'il adore dessiner à la maison.
When he was 4 years old, you know, he just likes to draw his imagination, drawing and coloring, and then he likes to put in the walls like a big art.
Madame Bernabé explique que Sébastien dessine depuis qu'il a l'âge de 4 ans et qu'il adore accrocher ses dessins un peu partout dans la maison pour les exposer comme un peu une petite galerie d'art. Sa passion pour l'écriture vient d'abord et avant tout de sa passion pour la lecture qu'il a développée à l'âge de 3 ans.
I loved books ever since I was around 3 to 4. I love comic books the best, but I still like picture books and chapter books too.
Le jeune écrivain explique qu'il adore la lecture depuis que, dans sa mémoire, depuis qu'il a 3-4 ans, il adore les livres de super-héros, les livres de photos et les livres de courts récits. Le livre « J'aimerais vivre dans une librairie » s'inspire d'un réel désir du jeune garçon de passer sa vie à la librairie. La lecture a toujours fait partie de la famille, explique la mère de Sébastien.
We don't use tablet, we don't use Netflix because we don't have time. Because we are busy reading, we are busy activities. It's good for them. Instead of you going to play outside soccer, they are playing game in the tablet. It's not make sense for me, you know. They need to go, let them get the tablet. Go out, play outside your ride, the playground, right?
La télévision, les jeux vidéo ou les écrans ne sont pas souvent ouverts chez la famille Bernabé. Aller jouer à l'extérieur pour bouger et apprendre par la lecture est la façon de fonctionner à la maison. L'habitude est qu'il y a toujours une douzaine de livres qui accompagnent Sébastien lorsqu'il revient de la bibliothèque. Son métier de rêve serait d'un jour être libraire.
A librarian, because I can put the books back where they are and also help other children read more. And also I could still enjoy books.
Sébastien explique qu'il voudrait être libraire pour pouvoir aller reporter les livres sur les étagères, pour pouvoir aider les enfants dans leur lecture et pour bien sûr continuer à lire. Le jeune écrivain originaire de l'Alaska est arrivé à Yellowknife en 2019. Il est très content des livres proposés par la bibliothèque municipale de la ville.
It like has most of the books I want, like maybe 98% of the books I want, and I read maybe 30% of the books.
Le jeune garçon raconte que la bibliothèque a tous les livres qu'il veut. Il dirait qu'environ 98% des livres, il les adore et qu'il aurait lu environ déjà 30% de cette bibliothèque. Selon Madame Bernabé, tous les enfants aiment lire. Il suffit de trouver des sujets qu'ils aiment.
You know, I believe every kid loves book. They just didn't find what they're looking for. That way we need to help them. What they're looking for.
Vous savez qu'on aime se promener? On se dirige vers l'est du pays où des chercheurs de l'Université St. Mary's découvrent des amas d'étoiles aussi vieux que notre univers. Enfin, presque. Des étoiles qui auraient soufflé leurs 9 milliards d'années de bougies, alors que l'univers en compte 13,7 milliards. Il s'agirait des plus anciennes étoiles jamais observées. Ces étoiles ont été repérées dans une galaxie qu'ils ont joliment baptisée de Sparkler en raison des petits points rouges qui l'entourent. L'équipe de chercheurs attachée au projet Canox a fait cette découverte inédite grâce aux instruments à bord du télescope James Webb. Il s'agit d'un spectrographe entièrement conçu par le Canada d'ailleurs. Cette découverte pourrait nous fournir de précieuses informations sur le Big Bang, le grand boom qui aurait sonné le début de notre univers observable. Adèle Gros-Perrin a rencontré trois des membres de l'équipe de chercheurs, Marcin Sawicki, Guillaume Després et Gaël Noireau.
Des chercheurs d'une de nos universités locales, St. Mary's University, auraient trouvé des groupes d'étoiles quasiment aussi anciens que l'univers lui-même. Ces étoiles ont été identifiées dans une galaxie si lointaine que leur lumière a voyagé pendant 9 milliards d'années avant d'être observée. Grâce à cette équipe d'Halifax, nous allons mieux comprendre comment notre univers est né. Nous avons rencontré trois membres de cette équipe à St. Mary's dans le département d'astronomie et de physique. Martin Savisky, directeur de recherche et professeur à St. Mary's, ainsi que Guillaume Després et Gaël Noireau, deux chercheurs post-doctorants francophones. Ils m'ont présenté leur projet appelé Canox, qui regroupe des chercheurs de St. Mary's, mais également de l'Université de Toronto et du Herzberg Astronomy and Astrophysics Research Center à Victoria. Le but de ce projet est d'observer des galaxies avec le célèbre James Webb Télescope. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, le James Webb est un télescope qui a été longuement attendu, finalement lancé le 25 décembre 2021. Martin nous a expliqué avec enthousiasme la mission de ce télescope.
It's the most anticipated telescope of the last few decades. You know, we've been waiting for Webb. We, meaning the scientific community, has been waiting for Webb for more than 20 years. The general theme is that Webb was built to understand the history of our origins. So Webb has several key science goals. One of them is understanding how planets form, how stars form. And then there are two that are related to the research that we do here. And that's how galaxies form very early in the history of the universe and how they evolved.
Grâce à ce télescope, donc, une découverte importante a été faite par l'équipe d'Halifax. Guillaume nous a expliqué ce qu'il s'était passé et Gaël a précisé comment cela avait été possible d'observer des objets aussi lointains.
L'idée, c'est que en regardant la première image qui a été diffusée du James Webb Space Telescope, on a commencé à regarder un petit peu toutes les galaxies qui semblaient intéressantes à étudier en attendant d'avoir les vraies données scientifiques qui devaient arriver le lendemain. Et parmi les galaxies que l'on voyait dans l'image. En effet, il y en avait une qu'on a surnommée ensuite le Sparkler, qui est une galaxie qui semblait avoir plein de petites étincelles autour d'elle, plein de petits points lumineux qui semblaient très rouges. Et très vite, on s'est mis à se dire, ça serait marrant qu'avec James Webb, on puisse observer ce qu'on appelle des amas globulaires, donc des boules d'étoiles qui sont généralement très vieilles autour de cette galaxie. Et donc, on s'est dit, eh bien, quand on a les données, on regarde cette galaxie et puis on essaye de déterminer l'âge des étoiles de ces petites boules. Et il s'est avéré que sur la dizaine de petites étincelles qu'on voyait autour de la galaxie, donc la dizaine d'amas d'étoiles que l'on voyait, il y en a 4 qui sembleraient avoir un âge de formation qui est très proche en fait de l'âge de l'univers. L'idée, c'est que quand on regarde cette galaxie, elle est tellement loin que la lumière qu'elle émet met environ déjà 9 milliards d'années pour arriver jusqu'à nous. Donc en fait, on la voit telle qu'elle était déjà il y a 9 milliards d'années.
Donc oui, dans les premières images qui ont été publiées du télescope, des observations du télescope, il y a une des images qui était une image d'un amas de galaxies. Cet amas de galaxies contient plusieurs centaines de galaxies et cette structure forme ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Et c'est un effet, au final, qui déforme et qui amplifie la lumière des objets qui se situent en arrière-plan. Donc on peut mieux observer des galaxies qui sont encore plus lointaines que celles qui sont dans l'amas de galaxies. Et comme ça, on peut vraiment étudier l'évolution et la formation des toutes premières galaxies qui se sont formées dans l'univers.
Cette découverte donne un beau coup de projecteur sur l'université de St. Mary's. Martin nous a expliqué avec fierté que cela montre qu'une plus petite université moins connue est aussi capable de travailler sur des sujets de recherche passionnants et déterminants pour le monde scientifique.
You know, it's fantastic to be involved in this for St. Mary's to be involved in this. As I said, we have one of the largest teams working on web data in Canada and in fact in the world.
Plus globalement, cela met aussi en avant l'expertise canadienne, puisque l'instrument avec lequel ces observations ont été faites, NIRIS, est 100% made in Canada. Justement, ce genre de recherche avec le James Webb Space Telescope est financé par le gouvernement canadien et l'agence spatiale canadienne.
We have a grant from the Canadian Space Agency. I have a grant from the National Natural Sciences and Engineering Research Council, including a Discovery Accelerator grant, which is, you know, that goes to projects that have potential for really world-class breakthrough. And I have a Canada Research Chair position from the Canadian government.
Que va-t-il se passer à l'avenir pour CANUX? Eh bien, l'équipe a fait une demande d'observation de 5 amas de galaxies avec le James Webb Telescope.
Donc par la suite, là, ce qui arrive la semaine prochaine, enfin cette semaine d'ailleurs, c'est les premières observations de ce programme-là CANUX qui vont avoir lieu. Et donc c'est vraiment 5 champs du ciel qui contiennent des amas de galaxies, comme on a pu voir dans les premières images du James Webb. Et donc c'est vraiment 5 champs du ciel. Et avec ça, ce qu'on veut étudier, c'est vraiment l'évolution des toutes premières galaxies et découvrir les premières galaxies qui sont formées dans l'univers et étudier leur évolution.
On va analyser toutes ces images, on va analyser toutes les données que l'on va recevoir pour essayer justement de trouver des galaxies qui sont intéressantes, des galaxies qui sont très lointaines, particulières et qui sont différentes de ce à quoi on s'attendrait justement parce que c'est ça tout l'intérêt, c'est de trouver quelque chose d'un petit peu exceptionnel et d'un petit peu inattendu comme là ici ce Sparkler avec justement ces boules d'étoiles qui sont extrêmement vieilles alors qu'on ne s'attendait pas forcément pouvoir les observer et arriver à mesurer leur âge.
C'était Adèle pour IJL Halifax.
Le Canada serait, selon l'OMS, en train de sous-estimer le nombre de décès liés aux grossesses et aux accouchements. Statistique Canada en recense 523 sur une base annuelle, mais un rapport de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres organismes en dénombre plutôt 800, voire plus. Un constat qui ne surprend guère. Chantal Gauthier-Vaillancourt, sage-femme depuis 10 ans, dans la région de Plamondon et de Lac-la-Biche, en Alberta, Elle, qui estime qu'un accouchement sur quatre est sujet à des complications, en fait, les soins prénataux peuvent aider à les repérer, les prévenir, y réagir rapidement, mais faut-il encore disposer des ressources terrain? L'hôpital de Lac-Labiche en Alberta souffre, comme tant d'autres au pays, d'une pénurie de personnel. Des 12 médecins qu'il comptait il y a 18 mois, il n'en reste que 4. Et un seul est en mesure de pratiquer des soins en obstétrique. Vincent Lavoie a rencontré la sage-femme Chantal Gauthier-Vaillancourt.
Il y avait quelque chose qu'on a appris cette semaine, c'est que le Canada sous-estime le nombre de décès qui surviennent durant la grossesse ou durant l'accouchement. On dit en fait qu'on sous-estime ce nombre-là de près de 60 %. Est-ce que c'est d'abord une statistique qui vous a surpris?
Malheureusement, non. Ça ne m'étonne pas. Il y a énormément, ben comme on est tous au courant, il y a une pénurie évidemment de médecins, de personnel médical en général. Nos hôpitaux sont débordés. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui n'ont même pas de soins prénataux. Donc, quand on n'a pas de soins prénataux, c'est presque impossible de prévenir des conditions compliquées. Puis, au-delà de ça, ben des fois, les statistiques ne sont pas toujours précises ou adéquates, surtout quand c'est une femme qui se présente à l'urgence puis qui n'a pas eu de soins prénataux. Des fois, on n'est pas au courant nécessairement de ses antécédents ou des complications qu'elle aurait pu avoir avant. Donc, ça ne m'a pas surpris, non, cette statistique-là. Je te dirais, environ 25 % du temps, il y a une situation d'urgence à gérer.
Du point de vue des soins à Lac-Labiche, il y a vraiment une pénurie des médecins. Là. Il y a vraiment une pénurie de l'offre qu'on peut donner pour encadrer les accouchements. Là.
Évidemment que non. On est allé de 12 médecins à 4 médecins en un an et demi. Et puis, de ces 4 médecins-là, il y en a juste une qui est omnipraticienne, qui fait de l'obstétrique. Et puis, vu qu'elle est toute seule, elle a le soutien de moi et ma partenaire sage-femme, mais par rapport au centre hospitalier, elle est toute seule pour faire les accouchements à part de s'ils nous appellent. Donc, elle a choisi en ce moment de ne pas faire l'obstétrique sans le soutien qu'elle demande. Et ça fait que ce n'est que les sages-femmes qui font des accouchements dans notre communauté en ce moment.
Et ça, justement, le recrutement des médecins, ça n'a pas fonctionné là, pour la région de Lac-Labiche, malgré le programme RESIDE du gouvernement albertain qui vise à recruter des médecins. Ça n'a pas fonctionné. Là. On manque encore cruellement de médecins de ce côté-là. Mais est-ce qu'il y a vraiment une solution concrète qu'on peut appliquer pour pallier à ce problème-là?
Bien, le recrutement pour les médecins, ça fait déjà un bon bout que c'est en marche puis que ils font quand même des démarches assez concrètes pour essayer de recruter, puis ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc là, moi, je me dis, ben, peut-être qu'il faudrait recruter d'autres sages-femmes. Au moins une autre sage-femme, si pas deux, puis offrir l'accouchement physiologique aux femmes à bas risque pour qu'ils n'ont pas besoin de tout voyager à Edmonton ou à Cold Lake. Récemment, on a créé un partenariat entre les sages-femmes et l'obstétricienne à Cold Lake. Donc, c'est quand même un peu plus proche pour nos clientes et les clientes et les femmes de la communauté. Et puis, s'il y a des complications, c'est une obstétricienne. C'est pas juste une médecin de famille qui fait de l'obstétrique. Donc, vraiment, c'est pour nos clientes qui ont des risques. Et puis, je trouve que ça fonctionne de mieux en mieux. Exemple, l'autre jour, on a eu une femme à bas risque qui est entrée en travail, son premier bébé. Et puis, quand j'ai arrivé chez elle, j'ai découvert que le bébé est en siège. Bon, en siège, c'est une variation du normal. Par contre, si c'est un premier bébé, on ne sait pas s'il y a assez de place pour que le bébé descende sans rester pogné. Surtout que ce qui nous inquiète, c'est que la tête reste prise. Donc, bref, tout ça pour dire, j'ai pu appeler à Cold Lake. On est allé en ambulance, je suis allée avec elle au cas où qu'elle accouche en route, puis on a réussi à faire un accouchement à Cold Lake avec un hôpital qui a accès à des césariennes et aux chirurgiens et à l'obstétricienne et tout. C'est juste plate parce que c'est une ride en ambulance en travail pour les femmes, mais garde, le résultat final, c'était bébé et maman sain et sauf et tout a bien fini. Donc, mais c'est compliqué pour nous.
Mais ça, si j'ai bien compris, en fait, les services de césarienne et de chirurgie et tout ça, c'est pas offert à la Clabiche en ce moment, là.
Non, il n'y en a pas du tout. Depuis le mois de mai.
Depuis le mois de mai, quand même. Donc, c'est assez récent. De votre côté de sage-femme, c'est occupé en ce moment? Vous ne manquez pas de travail?
Oh, ça ne l'arrête pas. Oui, occupé et épuisé. On commence à trouver ça lourd un peu, là. On fait en moyenne, je dirais, 10 à 12 accouchements par mois. On est juste nous deux. Pourcentage-là, de ce nombre-là, il y en a peut-être un 5 % de transfert. Non, c'est beaucoup.
En tout cas, Chantal Gauthier-Vaillancourt, vous êtes sage-femme dans la région de Plamondon-Lac-Labiche. C'est un sujet qu'on va continuer de suivre absolument. La pénurie de soins de santé dans les régions rurales, non seulement ça, mais encore plus la pénurie de soins nataux dans les régions rurales. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler aujourd'hui.
Merci, Vincent.
Ici Vincent Lavoie pour IJL à Plamondon.
La clinique Procréa de Gatineau vient d'obtenir son permis d'exercice en procréation assistée. Une première pour la région et un espoir pour les couples infertiles, Procréa a reçu son permis de niveau 3, ce qui lui donne enfin le droit d'offrir des soins en fécondation in vitro aux femmes et aux couples qui souhaitent ardemment devenir parents. Jusqu'à présent, aucun des établissements de la région n'était autorisé à offrir ce service. Vous le devinez, c'est pour de nombreux couples une bonne nouvelle, la clinique qui prévoit ouvrir son laboratoire aussitôt qu'en 2023. L'incapacité pour un couple de concevoir un enfant peut induire beaucoup de stress. Selon le gouvernement du Canada, près de 16 % des couples canadiens, donc 1 sur 6, est touché par l'infertilité. Yasmina Dagri est à Ottawa en compagnie du docteur Eric Imaya, directeur médical de Procréa à Gatineau.
Eric Imaya, comment ça va?
Bonjour, ça va bien, merci, vous?
Ça va très bien. Vous êtes le directeur médical de la clinique Procréa Gatineau. Quel est votre sentiment après que votre établissement soit le premier à être autorisé à offrir ce service dans la région?
Ben, en fait, c'est un sentiment de soulagement, premièrement, de finalement être capable d'offrir les soins. Mais on a toujours été, en fait, la seule clinique dans la région, puis on a augmenté graduellement les services qu'on était capable d'offrir. Donc, c'est un peu une finalité à tout ce qu'on est capable d'offrir. On va être capable de tout faire maintenant dans la région, alors qu'on a toujours été limité et peu desservi dans la région dans le passé. Hein.
Alors, dans l'imaginaire, pour des personnes, par exemple, qui connaissent peu la fécondation in vitro, docteur, qu'est-ce que c'est?
Ben, en fait, la fécondation in vitro, c'est une technique qui va aider les couples ou les personnes qui sont infertiles et qui ont besoin d'assistance. Il y a environ un couple sur 6 qui aura besoin d'aide en fertilité, et c'est pas un couple sur 6 qui a besoin de fécondation in vitro. Donc, il y a certains traitements qui sont plus simples, qui sont moins invasifs, qui sont aussi efficaces, mais quand on est rendu à des traitements qui sont plus avancés, mais c'est la fécondation in vitro. Donc, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est l'outil le plus efficace et le plus compliqué, si on peut dire, à gérer et à faire.
Mais quand est-ce qu'on devrait s'inquiéter d'infertilité?
C'est une question quand même un peu complexe. Il faut comprendre que quelqu'un qui n'a aucune inquiétude particulière, qui essaye d'avoir une grossesse et qui a des cycles menstruels réguliers une fois par mois, on peut attendre un an avant de consulter en fertilité. Il y a environ 80 % des gens qui vont être enceintes dans la première année. Donc, après ça, on peut consulter puis commencer à être investigué. Par contre, si la femme a plus que 35 ans, on va avoir tendance à investiguer un peu plus tôt. Donc, une femme de 35 ans qui a des cycles réguliers, qui essaye depuis 6 mois, à ce moment-là, on va investiguer cette personne-là un peu plus tôt. Mais il y a aussi d'autres raisons. Une personne qui a une inquiétude parce qu'elle a eu un cancer, une chimiothérapie, une chirurgie ou n'importe quelle inquiétude particulière, on va l'investiguer plus tôt. Une femme qui n'a pas des cycles réguliers à tous les mois, on va l'investiguer plus tôt aussi. Donc, c'est pas nécessaire d'attendre 6 mois ou un an s'il y a une inquiétude particulière par rapport au cycle ou par rapport à la fertilité. Donc, grosso modo, on peut dire un an pour une femme de moins de 35 ans et 6 mois pour une femme de plus de 35 ans, mais c'est en gardant en tête toutes les raisons autres de consulter avant ça.
La fertilité, il faut savoir que ça touche les hommes bien que les femmes.
Mais on sait que c'est environ un couple sur 6 qui en a besoin, mais on rajoute après ça les femmes seules, les couples femmes-femmes, les couples hommes-hommes. Il y a beaucoup d'autres groupes qui ont besoin d'assistance en fertilité, mais pour un couple homme-femme qui ont besoin d'aide, c'est environ 1 sur 6. Mais ça ne veut pas dire que 1 sur 6 consulte à la clinique de fertilité. Il y a 1 sur 6 qui vont consulter en général pour leur fertilité. Et puis, c'est ceux qui n'ont pas réussi à régler les problèmes en première ligne qui vont arriver à la clinique en deuxième ligne. Donc, c'est quand même une très grande portion de la population. Puis, quand on parle d'une population en âge de reproduction, c'est entre 20 et 45 ans à peu près. Donc, c'est un couple sur 6 dans ces âges-là.
Est-ce qu'il y a un traitement possible, en fait, contre cela? C'est-à-dire, pour une personne qui est infertile, est-ce qu'il y a un traitement à part, en fait, la fécondation in vitro?
En fait, il faut comprendre que la fertilité est une combinaison de beaucoup d'étapes. Il faut ovuler, il faut que la trompe fonctionne, il faut que le sperme se rende, il faut qu'il y ait une production de sperme, il faut qu'il y ait une fécondation, il faut ensuite que l'endomètre, l'utérus soit réceptif. Donc, il y a tellement d'étapes que l'investigation en fertilité commence par trouver s'il y a une étape qui est problématique et ensuite on va se concentrer pour régler cette étape-là. Donc, il y a des traitements pour une multitude de causes d'infertilité.
Quel est, par exemple, en quoi approximatif pour une personne qui aimerait avoir des soins et qui pensent que son cas est désespéré?
Mais en fait, chaque traitement n'a pas du tout les mêmes coûts. Mmh. Donc, on pourrait avoir une consultation médicale et on prescrit une pilule à la maison, puis la personne peut être enceinte. Alors qu'on peut aller jusqu'à des traitements de dons de vulve, par exemple, qui peuvent aller jusqu'à des 30-40 000 $ aussi. Donc, en général, chaque traitement a un certain coût. Si on regarde le coût pour des inséminations, qui est un traitement un peu plus standard et simple, c'est environ 1 000 $ par mois. Une fécondation in vitro, c'est autour de 10 000 $ pour une fécondation in vitro. Et des dons de vulve, ça peut aller de 10 à 30 000 $ et des fois plus si on obtient des garanties supplémentaires. Donc, il y a un éventail très large de coûts. La question est qu'est-ce qui est approprié pour une personne en particulier. La fertilité est extrêmement affectée par l'âge de la femme. Donc, n'importe quelle personne qui veut éviter d'avoir besoin de traitement en fertilité puis qui veut avoir une simplicité au niveau de ses grossesses, c'est d'avoir une grossesse le plus tôt possible. Donc, la pire chose à faire, c'est de retarder de fonder une famille parce que plus on attend, plus c'est difficile, plus il y a des risques d'infertilité et plus il y a des risques aussi pendant la grossesse. Donc, c'est sûr qu'une conception dans la vingtaine est favorable plutôt qu'une conception dans la trentaine ou même dans la quarantaine. Donc, c'est le mot principal, c'est de ne pas trop attendre.
Merci beaucoup, Dr. Eric Imaya, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Bien, merci à vous.
Et c'est là-dessus que se conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Nos collaborateurs cette semaine, Yasmina Dagri, Adèle Gros-Perrin, Vincent Lavoie et Raphaël Hamel. Notre coordonnateur national, Stéphane Bénard. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Boris Chassagne ici au micro, à l'animation et à la réalisation. Écoutez-nous partout et rendez-vous sur canada-info.ca, canada-info.ca, pour y entendre une foule de reportages en deux et même trois langues. À bientôt!
À Ottawa, en Ontario, vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.